DFM。Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 30e épisode de la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur, Abdou Sall. Oui, épisode numéro 30, comme le numéro qu'a porté Julian Palmer au cours des saisons 2016 et 2017. Fils de l'ancien pilote de Formule 1, Dr. Jonathan Palmer, Julian a été sacré champion de la série GP2, aujourd'hui devenue la Formule 2, en 2014. Après une saison à passer comme pilote d'essai chez Feu Lotus, il est promu comme deuxième pilote aux côtés de Kevin Magnussen avec le retour de Renault. Malheureusement, sa carrière en Formule 1 s'est terminée après le Grand Prix du Japon, où il a été remplacé par Carlos Sainz. Son meilleur résultat est une sixième place obtenue lors du Grand Prix de Singapour en 2017, dans une carrière qui aura été malheureusement marquée par quelques accidents. Aujourd'hui, Palmer est devenu analyste à la radio de la BBC et, comme son père, offre des analyses bien détaillées et bien appréciées par les peuples, par les fans de Formule 1. Au menu cette semaine, on revient sur le tout dernier Grand Prix de la saison avec quelques points importants, entre autres la domination de Lewis Hamilton, les problèmes de Max Verstappen, un sauve-conduit pour Charles Leclerc et Ferrari, les derniers Grands Prix pour Nico Hülkenberg et Robert Kubica et Carlos Sainz qui est devenu officiellement meilleur des autres. Et aussi, on va parler de la Formule 2 dans notre section en route vers la F1. Pour cette semaine, je serai tout seul à l'animation puisque mes collègues Marc-André Fortin et Brian Rimet ont eu des empêchements de dernière minute. Alors, je vais piloter tout seul cet épisode. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Eh oui, mesdames et messieurs, après 1262 tours, la saison 2019 de Formule 1 est désormais terminée. Et pour la première fois depuis 1963, on a eu une course de Formule 1 le mois de décembre. Oui, parce que la course à Abu Dhabi avait lieu un 1er décembre. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud, en 63, une course remportée par Jim Clark. Et cette course en décembre a été remportée par un autre Britannique, Lewis Hamilton, sur Mercedes, qui a devancé Max Verstappen sur Red Bull, Charles Leclerc sur Ferrari, Valtteri Bottas qui partait de la ligne de la dernière place après de nombreuses pénalités dues à son moteur, Sébastien Vettel sur Ferrari 5e, Alex Albon sur l'autre Red Bull 6e, Sergio Perez sur la Racing Point 7e, Lando Norris 8e, Daniel Kvyat 9e et Carlos Sainz termine 10e. On a un seul abandon et c'est la Racing Point de Lance Stroll. Le meilleur temps en course appartient à Lewis Hamilton qui l'a fait dans les derniers tours de la saison et de l'épreuve même. Et le pilote du jour, Nico Hülkenberg. Alors, nous allons passer tout de suite aux évaluations post-Grand Prix. Le tout dernier, malheureusement. Et moi, je vais commencer avec mes performances. Performance du jour, hashtag perfou du jour, à Max Verstappen, qui a été excellent malgré quelques problèmes de moteur, de pédales et tout. Et Valtteri Bottas, comme j'ai dit, qui est parti dernier, qui finit quatrième, qui est passé proche d'obtenir un podium inattendu. Sinon, moi je dois dire encore une fois, Sergio Perez a été impressionnant avec sa Racing Point. Une belle stratégie d'ailleurs. Carlos Sainz, malgré sa 10e place, qui obtient le 6e rang au championnat du monde des pilotes, son meilleur résultat à vie en Formule 1. Donc voilà, ce sont mes performances. Contre-performance, je vais la donner à Sébastien Vettel et un peu plus à Ferrari pour l'arrêt au puits raté, mais ça, on en reparlera. Et à Lance Stroll, qui a été, disons, assez décevant dans ce Grand Prix, où il pouvait espérer aller chercher des points pour son dernier Grand Prix de son année recrue avec Racing Point. Et le moment cocasse, eh bien, il y en a eu quelques, je pourrais dire, mais c'est que j'ai trouvé après le Grand Prix une photo d'un ingénieur, en fait, qui va devenir un ex-ingénieur chez Renault, du nom de Nico, qui a été, disons, initié, pas initié, mais remercié à sa belle manière, d'une belle manière pour ses services avec Renault. Le clan de l'équipe française a tout simplement décidé de mettre de la farine, des œufs et tout, de la nourriture et de la ligoter sur une plaque roulante pour l'amener chez Toro Rosso, puisque ça va être là où il va aller. En fait, devrais-je dire AlphaTauri, puisque c'est le nom de l'écurie sœur de Red Bull pour 2020. Donc, ça, c'était vraiment drôle. Sinon, il y a Brian qui m'a envoyé ses évaluations. Performance du jour, Max Verstappen et Bottas lui aussi. Contre-performance, Racing Point. Je suppose qu'il va probablement parler de Lance Stroll. Et le moment cocasse, c'est Andrew Jarvis, un des ingénieurs de la performance chez McLaren, dont c'était la dernière course, qui pleure avec Lando Norris. Vous l'avez sûrement entendu à la radio. Norris qui dit I'm crying! Oh, c'était un moment vraiment touchant parce que Andrew Jarvis en était à sa dernière course comme ingénieur chez McLaren. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller prochainement, mais c'était quelqu'un qui était vraiment apprécié par la jeune recrue britannique qui vient d'avoir 20 ans. Et en attendant, on va aller sur Twitter, parce qu'on a le toujours très fiable Francis Paquette qui nous a envoyé ses évaluations. Je vais vous le dire tout de suite. Performance du jour, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Sergio Perez. Pas moment cocasse tout de suite, mais la contre-performance du jour à Sébastien Vettel et à Lance Stroll. Et le moment cocasse, il n'en a pas, mais il est triste que ce soit la dernière course en 2019. Ouais, ça a passé un peu trop vite. On a eu beaucoup de belles courses, riches en émotions. Donc, je le comprends qu'il soit triste, je pense qu'on l'est aussi. Mais soyons honnêtes, ce Grand Prix d'Abu Dhabi n'était pas le meilleur. Et d'ailleurs, je dois dire, j'ai dû le regarder deux fois parce que une fois j'étais au travail, donc j'avais quoi gaspillé 3 gigs en étant sur l'application de RDS pour regarder la course. Et je l'ai regardé en rediffusion aussi avec un peu plus d'analyse. Donc, ouais. J'arrive pas à croire, mais c'est déjà la fin d'une magnifique saison de Formule 1, où malgré tout, ça a été une domination complète de la part de Lewis Hamilton et de Mercedes. Alors, on va tout de suite passer à nos points de ce Grand Prix. Le premier, ben, on va commencer avec le vainqueur de la course, Lewis Hamilton, qui n'est plus qu'à 7 victoires du record de Michael Schumacher, qui est de 91 succès en carrière, donc une 84e victoire, et le tout à son 250e Grand Prix. C'est sa 11e victoire de la saison, et c'est la 50e victoire, en fait, qu'il remporte en partant de la pole position. Donc, un Lewis Hamilton, comme on le voit souvent, on pourrait dire, disons qu'il n'a pas, il n'a pas eu le rythme qu'il voulait lors des essais du vendredi, mais samedi, il a été impressionnant lors de la séance de qualification, enregistrant un temps assez impressionnant, un tour rapide, comme on le connaît. Donc, quand je dis c'est un Lewis Hamilton classique, ben, c'est pas pour rien parce qu'il a été vraiment impressionnant. Son tour, comme une fusée en fait. Alors, je dois dire vraiment chapeau au pilote britannique qui nous a servi, qui nous montre en fait pourquoi il est un des meilleurs. Sinon, il s'en vient d'être, il est en passe de devenir le meilleur pilote de tous les temps, même s'il y en a beaucoup qui vont, disons, essayer de douter de ses, de son, en fait, douter en fait de son GOAT, the greatest of all time, même s'il y en a qui vont dire c'est toujours Schumacher ou Ayrton Senna. Mais je dois dire, je suis vraiment impressionné de la course d'Hamilton. Il a mené du début jusqu'à la fin et il s'est même permis d'obtenir le meilleur tour avec deux tours à faire dans cette épreuve. Parce qu'il était sur un rythme avec des pneus durs. Essayer de trouver un peu un moyen de gérer ses pneus en vue de la saison 2020, parce que je pense que les traits des pneus vont rester pas mal les mêmes que ce qu'on a vu cette année. Alors, je m'attendais pas à grand chose quand j'ai regardé ça. C'est sûr que première fois quand je l'ai regardé du coin de l'œil, dimanche, je voyais Hamilton dominant, mais quand je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai constaté à quel point il était très constant. C'est normal, c'est le Lewis qu'on connaît. Alors, très impressionnant, puis je pense que c'est une belle manière de terminer la saison de Formule 1, même s'il a été déjà sacré champion. Alors, vraiment impressionnant. Puis en plus, il termine la saison avec 413 points. C'est son plus grand nombre de points marqués dans une saison, même si le barème des points a changé au cours des années. Bon, on est passé aux 25 points pour un vainqueur. Mais quand même, Hamilton a complété tous les tours de la saison 2019 de Formule 1. Il a fini les courses dans le top 10, peut-être à l'exception, on va dire, d'Allemagne, mais il a hérité des pénalités sévères imposées à Alfa Romeo pour terminer 9e. Donc, n'eût été de ces sanctions, Hamilton aurait eu 20 courses sur 21 dans les points. Mais quand même, une saison remarquable, mais surtout pas facile pour lui et pour Mercedes parce que, évidemment, ils ont été affectés par la mort de Niki Lauda au mois de mai, qui a, disons, vraiment choqué, ben, qui les a choqués, mais qui les ont mis un peu avec une ambiance plutôt différente. Donc, surtout pour Lewis, pour qui Niki est un grand ami, mais aussi un mentor. Donc, Lewis doit son championnat à Niki Lauda, parce que sans ça, je pense que quand on y pense, là, il y a 6 ans, qui aurait cru, même il y a 5 ans, qui aurait cru que Lewis Hamilton serait un sextuple champion du monde? Tout ça grâce à Niki Lauda, et ça, il faut la remercier encore une fois. Donc, je pense que autant pour Lewis que pour Mercedes, ce sixième titre, il est âprement mérité. Donc, vraiment, vraiment bien pour sa part. Donc, félicitations encore à Lewis Hamilton qui termine la saison sur une très bonne note. Et parlons aussi de Valtteri Bottas, qui, ma foi, a été quand même impressionnant. C'était pas une fin de semaine facile pour lui, parce que, telle une tragédie grecque, il était déjà prédestiné à avoir un sort, je dirais pas fatal, mais un sort désavantageux. C'est-à-dire, pas une, mais deux pénalités de moteur qui l'a forcé à partir bon dernier. Et en plus, il était malade, je pense qu'il avait une grippe. Donc, ça l'a vraiment forcé à donner son 110%. Et c'est ce qu'il a fait, pourtant. Et il a réussi à le faire sans le DRS pendant les 20 premiers tours parce que il y a eu une. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez, mais il y a eu 18 tours sans DRS à Abu Dhabi parce que c'était un problème technique au niveau du serveur informatique de données. Gracieuseté de Amazon Web Service. Donc, c'est ça, il y avait un problème de DRS. Donc, Valtteri Bottas a dû remonter le peloton à l'ancienne, comme c'était le cas lors du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2010, la dernière course où on n'avait pas l'introduction de DRS. Donc, je dois dire, vraiment, il était chanceux. Je dirais pas qu'il était chanceux, mais ça aurait été bien que Bottas finisse la saison sur le podium. Il était proche et il n'était pas très loin de Charles Leclerc qui a fini troisième. Alors, une belle performance de la part du Finlandais, mais qui voudra certainement élever son cran en fait, élever son niveau, en fait. Passer à un autre niveau, c'est ça. Passer à un autre niveau, parce que même s'il est devenu vice-champion, il croit qu'il aurait pu il aurait pu faire mieux. Mais des courses comme celle-là, ça prouve que même si Mercedes a la meilleure voiture, il est capable de faire des miracles avec. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire, disons, des miracles, si on peut dire, c'est Max Verstappen, parce que le pilote néerlandais, en fait, n'en a pas eu facile, en fait, je dirais, parce que, oui, il finit deuxième et il termine aussi troisième au championnat des pilotes. Mais il a souffert de problèmes parce que, apparemment, il a eu des soucis de moteur pendant la course. Vous l'avez peut-être entendu lors de la retransmission où il parlait avec son ingénieur de piste et il disait, bon, j'ai tel problème au niveau de la pédale, au niveau du moteur, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais il a réussi quand même à dépasser Charles Leclerc en piste pour la deuxième place, alors que les deux s'étaient déjà ravitaillés. Et je dois dire quand même qu'il a été impressionnant. Donc ça finit sur une bonne saison. Puis, laissez-moi vous dire, parce que je ne vais pas trop en dire sur Verstappen, mais malgré les problèmes qu'il a eu à Mexico City, un peu plus tôt au mois de novembre, il a été excellent, constant cette saison. Je pense que, ben d'ailleurs c'est ça, c'est sa meilleure saison en Formule 1. 3 victoires en Autriche, en Allemagne et au Brésil. 9 podiums, ce qui est quand même bien. Et 2 pole positions, c'est 2 premières en Formule 1. Bon, il va peut-être dire 3 parce qu'il a perdu celle à Mexico en raison d'une énorme bêtise. Mais je trouve que Max Verstappen a énormément maturé. Il est devenu plus mature, puis c'est ça qu'il faut. Il a quand même. C'est déjà sa 5e saison en Formule 1. Même moi, je ne le réalise pas. Il a commencé à 17 ans. Il en a 22 et il est capable maintenant de prouver qu'il est un numéro 1 à cet âge-là. Donc, si Honda et Red Bull continuent sur leur lancée en 2020, attention Mercedes et Ferrari, parce que Max Verstappen pourrait être un outsider absolument remarquable pour 2020. Surtout qu'on a vu, malgré les petits soucis moteurs qu'il a eu, surtout à Abu Dhabi, que le moteur Honda est légèrement meilleur que celui de Renault, mais plus fiable aussi, je trouve. Alors, vraiment, ce qu'il a montré à Abu Dhabi, avec une stratégie différente que celle de Ferrari, vraiment, Max Verstappen a été vraiment bon à Abu Dhabi et en général sur la saison 2019. Alors, moi, je dois dire quand même chapeau au pilote néerlandais, puis surtout que l'année prochaine, la Formule 1 s'en va aux Pays-Bas, donc peut-être que Verstappen aura la chance de bien faire devant ses partisans à la maison. Ben, disons, à sa deuxième maison, parce qu'il est né en Belgique. Sinon, celui qui termine, qui a accompagné, en fait, Hamilton et Verstappen, c'est Charles Leclerc. Oh my God! Leclerc a été énormément chanceux parce que il a gardé son podium. Il a fini troisième, mais avant le départ du Grand Prix, la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, a annoncé que Charles Leclerc était sous enquête pour, disons, avoir omis de déclarer la quantité de carburant qu'elle prévoit mettre dans les monoplaces pour les tours vers la grille, le tour de formation, la course, le tour de rentrée et les allumages dont il y aurait besoin. Selon les dossiers de la FIA, il y a eu une différence de 4,88 kilos entre la déclaration de l'équipe pour la voiture numéro 16 et ce que les délégués techniques de la FIA ont mesuré. Donc, la déclaration était juste incorrecte et c'était une entrave à aux règles techniques. Donc, c'était une infraction dans le code sportif. Et quand je dis c'est un sauve-conduit, c'en est tout un parce que les commissaires ont infligé à Ferrari une amende de 50 000 euros, donc c'est à peu près 73 000 dollars canadiens. Mais Leclerc a gardé son podium. Mais soyons honnêtes, ça a été une course à l'image de la saison, autant pour Leclerc que pour Ferrari. Parce que lors de la course, oui, il est passé devant Verstappen. Et excusez-moi, mais ça, j'ai pas compris l'idée de vouloir faire un double arrêt comme on l'a vu avec Mercedes en Chine. Ça a fonctionné pour Leclerc qui est parti, mais pour Vettel, ça a été carrément raté. C'est ce qui a ruiné sa course. Et en plus, Leclerc finit à 40 secondes de la tête de la course. Et ça a failli finir en une quatrième place parce que Bottas était sur une énorme lancée. Parce que justement, Leclerc et Ferrari avaient opté pour un deuxième arrêt avec des pneus tendres qui finalement ont atteint sa limite vers la fin de la course. Donc, ce qui a permis aux Finlandais de Mercedes de rattraper le monégasque. Alors, je comprends pas pourquoi Ferrari a voulu faire ça. Parce que si tu tentes ta chance au deuxième, essaye de ne pas faire la, essaye de rester sur la stratégie optimale. Bon, si c'est ce que Ferrari pensait être la bonne, tant mieux, mais ça n'a pas fonctionné tout court. Donc, tant pis pour eux. Est-ce que les pneus durs que plusieurs pilotes ont utilisés n'avaient pas le même niveau de performance? Je sais pas, mais je pense que c'était une très mauvaise idée de la part de Ferrari. Et d'ailleurs, pourquoi s'être arrêté aussitôt? Parce que de toute façon, même s'il finissait devant Verstappen, Leclerc n'avait pratiquement pas de chance de finir troisième au championnat des pilotes, à moins que Vettel ne vienne voler vienne voler la quatrième place de, ben, la troisième place ou la quatrième de Verstappen. Mais ça a vraiment été une course à l'image de la saison 2019 de Ferrari. A mess, comme disent les Anglais. Mais oui, si ça n'a pas été facile pour Leclerc, ce le fut encore moins pour Sébastien Vettel, qui lui avait énormément hâte que la saison se termine. Et écoutez, cinquième, alors qu'il était dans le top 4. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a eu ce double arrêt où il est resté stationné pendant quelques secondes de plus que celui de Charles Leclerc parce qu'il y a eu un problème avec le changement de pneu. Je pense que c'était le pneu avant gauche qui l'a retardé. Et là, il a été obligé de se battre en fin de course contre Alex Albon et contre Valtteri Bottas aussi un peu plus tôt. Alors, il finit autant cinquième dans ce Grand Prix à Abu Dhabi que cinquième au championnat des pilotes. Alors, c'est une déception pour moi. Et ça a été une saison remplie d'erreurs, comme je dis, d'erreurs, de bêtises. Bon, il y a eu aussi le cas au Brésil qui a été un point culminant de cette saison, de cet annus horribilis chez la Scuderia Ferrari. Mais au moins, Vettel va pouvoir quitter Abu Dhabi et la saison 2019 avec un gros soupir de soulagement. Surtout que, ben en fait, la semaine passée, il est devenu papa pour la troisième fois. Donc, au moins, ça va lui faire énormément du bien de revenir avec sa famille. Chez McLaren, on va en parler tout de suite parce que quelle saison ce fut! Et même si le classement de ce Grand Prix ne reflète pas en fait ce qui en était de la saison en général. Félicitations à Carlos Sainz qui finit sixième au championnat des pilotes et qui devient officiellement le meilleur des autres pilotes. Donc le champion de la Formule 1.5, comme on le dit à la blague. Il a fini dixième, mais c'est tout ça grâce à un dépassement dans le dernier tour contre son ancien coéquipier chez Renault, Nico Hülkenberg. C'était une course avec une bonne stratégie, je dois dire. Si ça n'a pas fonctionné, les deux arrêts chez Ferrari, ça a été le cas chez McLaren parce que il a arraché le point dans le dernier tour. Et il a profité un peu des difficultés de Pierre Gasly qui a été accroché au premier tour avec la Racing Point de Lance Stroll pour s'emparer de cette sixième place. Et en plus, il y avait Alex Albon qui était dans le lot, mais il a fini sixième. Donc, c'était suffisant pour l'Espagnol pour finir à cette sixième place au classement général de la saison 2019. Donc, vraiment, Carlos Sainz prouve qu'il est, pour moi, il est facilement top 4 de cette saison 2019 de Formule 1 parce qu'il a poussé cette McLaren jusqu'au bout. Et ce qu'il a fait à Abu Dhabi, aller dépasser Hülkenberg dans le dernier tour et résister à Daniel Ricciardo qui était pas très loin derrière lui, ça prouve pourquoi McLaren lui a fait confiance et pourtant c'est un jeune duo, lui et Lando Norris. Mais vraiment, une stratégie de deux arrêts qui a fonctionné pour l'Espagnol. Et je dois dire, avec le podium qu'il a eu au Brésil il y a 2 semaines, c'était vraiment bien. Donc, je suis très content. Je suis très content de voir Sainz progresser comme ça. C'est sûr que peut-être ça va aider McLaren pour la saison 2020 de partir au moins sur une base. Et pour Andreas Seidel, qui est devenu le nouveau directeur de course chez McLaren, d'entamer sa première année complète, au moins avec beaucoup de leçons, beaucoup de notes prises au cours de cette année, parce qu'il est arrivé, je pense, au Grand Prix d'Espagne, Andreas Seidel. Donc, si ça peut aider McLaren à commencer l'année 2020 sur le bon pied, peut-être que Carlos Sainz va pouvoir se battre. Pas plus que pour des sixièmes places, mais peut-être aller titiller un peu Red Bull. Tout dépendamment, mais vraiment, McLaren a assuré, tout comme Carlos Sainz. Et du côté de Lando Norris, bon, il dit que au moins il s'est fait avoir par la Racing Point de Sergio Perez. Je pense que c'était dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, parce qu'il dit qu'il ne s'est pas bien défendu contre le Mexicain, mais 8e quand même devant son coéquipier. Ça a été une bonne course en général, surtout que lui aussi, lui, contrairement à Sainz, est resté sur une stratégie d'un arrêt. Mais je dois dire que il n'a pas à s'en plaindre, Lando Norris. Il a fait du mieux qu'il a pu, mais en même temps, Perez est un pilote qui est excellent. D'ailleurs, il était l'avant-dernier pilote à s'arrêter au puits. Lui aussi sur une stratégie d'un arrêt, mais la différence, c'est que Perez est un pilote qui est très bon pour gérer ses pneus. Et ça l'a aidé à finir 7e, disons le meilleur des autres dans cette course à Abu Dhabi. Mais j'ai été impressionné autant par la course et la remontée de Perez que la manière dont Norris a dû se défendre presque jusqu'au bout face au Mexicain. C'est sûr que il a peut-être perdu, mais au moins il finit la saison sur une bonne note, on va dire. Donc, Lando, si tu nous écoutes, t'en fais pas avec ça, là. Tu vas pouvoir te venger. Au moins, tu peux dire, moi, ma McLaren a fini devant Racing Point tout au long de la saison, là. Donc, ne sois pas triste pour ça. Sois triste parce que Andrew Jarvis est parti, pour d'autres aventures. Et parlant de partir pour d'autres aventures, ben, malheureusement, c'était le dernier Grand Prix, peut-être le dernier Grand Prix pour Nico Hülkenberg et Robert Kubica. Le pauvre Nico Hülkenberg était dans les points jusqu'au dernier tour, avant non seulement de se faire dépasser par Carlos Sainz, mais aussi par son coéquipier Daniel Ricciardo, parce que il lui manquait d'adhérence de pneus dans les derniers tours, à la toute fin. Il finit 12e. C'est dommage parce que c'est parce que je dois dire, oui, j'ai dit que Hülkenberg, pour moi, je sais pas, il a été bon en général à certaines courses de la saison, mais est-ce que c'est l'influence d'avoir un pilote aussi rapide que Daniel Ricciardo comme coéquipier? Je dois dire, il a fait une très bonne course dans les circonstances. C'est juste dommage que l'adhérence des pneus, il n'en ait plus jusqu'à la fin. Mais en gros, c'était pas sa meilleure saison avec Renault. Il a été très performant en 2017 et surtout en 2018 avec de belles performances. Cette année, ça n'a pas été le cas. Alors, Il finit la saison avec 17 points derrière Daniel Ricciardo. Et c'est la première fois qu'il se fait battre chez Renault par un coéquipier. Donc, au moins, les fans lui ont donné le titre de pilote du jour. C'est un très bel hommage, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est pour ça que j'aime pas le titre de pilote du jour? Parce que c'est souvent un concours de popularité. Parlez-en à Max Verstappen qui remporte souvent des titres lorsqu'il ne le mérite pas. Mais Hülkenberg, je pense, a fini avec quoi? 27% des votes? Et au troisième rang, ben, deuxième, il y avait Valtteri Bottas à cause de sa remontée. Et au troisième rang, ben, celui qui disputait son 97e et probablement son dernier Grand Prix en Formule 1, c'est Robert Kubica, qui a fini, si je regarde le classement final, il a fini, je pense qu'il a fini dernier. Mais à un moment donné, il était devant George Russell. Il a passé une bonne partie de la course devant George Russell. Et il se retrouvait même dans une bagarre avec la Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. Donc oui, Kubica a fini dernier des pilotes classés avec 2 tours de retard. Donc oui, donc en fait là, on peut excuser un peu Kubica parce que il y a eu un accro comme j'ai dit, il y a eu un accrochage avec la Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi, ce qui a endommagé son fond plat. Donc, c'est ce qui a permis à Russell de le dépasser une bonne fois pour toutes. Mais je sais que cette année, ça n'a pas été fameux. Son retour n'a pas été fameux. Il s'est fait blanchir par son coéquipier George Russell. Mais au moins, il quitte cette saison à son retour avec un point, gracieuseté, tout comme le Hamilton, gracieuseté des pénalités imposées à Alfa Romeo lors de ce Grand Prix de folie en Allemagne, où il a fini dixième. Au moins, il part avec cet honneur, mais il faut saluer son courage, sa détermination, parce que revenir après 9 ans d'absence, 8-9 ans d'absence au championnat du monde de Formule 1. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait, mais surtout de la manière dont il l'a fait, même si la Williams était la pire voiture du plateau, Kubica s'est accroché, même s'il s'est fait battre la plupart du temps, ben, la grande majorité du temps, par son coéquipier. Mais je dois dire quand même, il mérite des applaudissements de partout parce que normalement, il y en a qui n'auraient pas tenu le coup. Kubica l'a fait. Et j'espère que l'écurie qui voudrait l'embaucher, fort probablement comme pilote de développement, va utiliser son expérience à bon escient, comme Williams l'a fait, même s'il y a eu quelques différends. Donc, est-ce que ce sera avec Haas? Est-ce que ce sera avec Racing Point? Qui sait? Peut-être, ben, je souhaite surtout pour Racing Point, pour aider surtout Lance Stroll à mieux performer, parce que ça a été une saison remplie d'inconstance. Mais ce serait bien pour une écurie d'avoir Kubica comme pilote de développement, justement pour aider à mieux développer la voiture, parce que, pour vrai, je sais que la Williams, comme j'ai dit, c'était pas la meilleure voiture, mais peut-être que l'année prochaine, il y aura une certaine amélioration. Je m'attends pas à ce que Williams fasse le saut de dernier à une bataille au milieu de peloton, mais au moins, s'il y a une progression, ce serait déjà une première victoire pour Williams. Essayer de se battre au moins pour des positions autres que finir dernier. Alors, voilà, c'est ce qui complète un peu le survol de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Voilà, c'était la dernière course de cette décennie, en fait. Et c'est Lewis Hamilton qui a gagné cette dernière épreuve. La première étant remportée par Fernando Alonso au Grand Prix de Bahreïn 2010. Donc, après 198 courses, où on a vu 66 pilotes sur 27 circuits dans 25 pays, on a eu 22 pilotes qui ont mené au moins un tour, 12 vainqueurs de Grand Prix, 14 détenteurs de pole position et 48 pilotes qui ont marqué des points. Tout ça en 11 300 tours. Eh bien, c'est une année 2000, c'est la décennie 2010 qui se termine avec une saison riche en émotions. Je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes à l'issue de cette saison 2019 de Formule 1. Alors, pas besoin de vous dire que Lewis Hamilton a remporté le championnat lors du Grand Prix des États-Unis, mais il finit avec 413 points. Valtteri Bottas finit deuxième avec 326 points. Max Verstappen finit troisième avec 270 points, 78 points, 278 points, Abdou. Quatrième, Charles Leclerc avec 264. Cinquième, Sébastien Vettel avec 240 points. Sixième, septième et huitième, on a dans l'ordre Carlos Sainz, Pierre Gasly et Alex Albon, qui finissent respectivement avec 96, 95 et 92 points. Donc, la bataille pour la sixième place était chaude jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tour même. Daniel Ricciardo termine sa première saison en jaune et noir avec Renault avec 54 points. Et Sergio Pérez, grâce à ce dépassement sur Lando Norris, termine dixième avec 52 points. Donc, félicitations à Sergio Pérez. Ça aussi, c'était une petite bataille qu'on n'a pas vue. Mercedes, au championnat des constructeurs, complète la saison avec 739 points. Ferrari termine deuxième avec 504 points. Red Bull en a 417. McLaren complète une année excellente avec 145 points, leur meilleure saison dans l'ère hybride. Renault en a 91 et résiste à cette cinquième place puisque Toro Rosso finit avec 6 points de retard. Racing Point finit septième. Alfa Romeo, qui a connu un Grand Prix assez difficile et une deuxième moitié de saison en chute libre, termine huitième. Haas, une saison à oublier de A à Z, termine avec 28 points. Ironiquement, Kevin Magnussen et Romain Grosjean terminent avec 20 et 8 points respectivement. C'est le même nombre de points que leur numéro de course. Ironique. Et Williams, grâce aux points de Robert Kubica au Grand Prix d'Allemagne, finit la saison avec un petit point. Et précisons aussi que c'était la dernière fois qu'on avait le nom de Toro Rosso dans le championnat du monde, puisque à partir de la saison prochaine, l'écurie sera appelée AlphaTauri en l'honneur de la marque de vêtements prêt-à-porter de Red Bull qu'ils veulent promouvoir. Maintenant qu'on a parlé de Formule 1, passons maintenant au segment En route vers la F1. Alors, cette fin de semaine, en même temps que la saison de Formule 1 se terminait, celle de Formule 2 se terminait aussi, oui. En même temps que la saison de Formule 1, celle de Formule 2 se terminait, avec les rondes 11 et 12 à Abu Dhabi. Et évidemment, il y avait la course feature, la course principale et la course sprint. C'est une victoire du Brésilien Sergio Sete Câmara qui donne la victoire à Dams. Ensuite, on a la colline de Nobuharu Matsushita qui termine deuxième. Et Guan Yu Zhou, le pilote chinois, finit au troisième rang sur la Univirtuosi. Le pilote canadien Nicolas Latifi finit la première course au septième rang. Et le champion de la saison, Nyck de Vries, le pilote néerlandais, a malheureusement pas marqué de points. Il termine 13e et il sort d'une fin de semaine remarquable avec sa nouvelle équipe en Formule électrique Mercedes, où il a impressionné. Il a marqué des points. Je sais pas s'il a marqué des points dans les deux courses en Arabie Saoudite la semaine précédente, mais une belle entrée en matière pour la part de DeVries, qui malheureusement n'a pas marqué de points dans les deux courses. Il a fini 13e. Et Latifi, quant à lui, qui a fini deuxième au championnat des pilotes, a terminé sur le podium à sa dernière course chez Dams. C'est Luca Giotto sur Univirtuosi qui a gagné la dernière course en Formule 2. Et le coéquipier de Latifi, Sergio Sette Câmara, complète le podium. Pourquoi je parle autant de Latifi? Eh bien, c'est un secret de Polichinelle. C'est celui qui va remplacer Robert Kubica la saison prochaine en Formule 1, ce qui veut dire qu'on aura pour la première fois en 70 ans de Formule 1 deux pilotes canadiens à temps plein, puisque évidemment il y aura Lance Stroll chez Racing Point, qui n'avait pas besoin d'être confirmé puisqu'il a un contrat de plusieurs saisons. Donc on aura deux natifs de Montréal pour la première fois sur une saison complète. Et parlant de son écurie, Dams a été sacrée championne, pardon, des constructeurs. Et c'est une belle manière de compléter cette saison parce que elle a été tristement affecté par la mort du fondateur Jean-Paul Drouet, qui est décédé, je pense, avant le Grand Prix de Hongrie, des suites d'une maladie. Donc, ce titre, c'est une belle façon de lui rendre hommage, tout comme ça a été le cas pour Mercedes avec Niki Lauda. C'est dommage parce que un doublé Dams aurait été excellent. Et du même coup, il y a eu. Oui, Latifi est devenu le premier. Pardon, Latifi est devenu le 32e pilote depuis 1988, année de fondation de l'écurie Dams, à se rendre en Formule 1. Donc, c'est Jean-Paul pardon, qui est bien content au paradis, sûrement en train de discuter avec les grands pilotes du potentiel que les pilotes ont lorsqu'ils vont chez Dams. Alors, c'est une très bonne chose, mais il y a eu aussi quelques mouvements de pilotes, parce que l'année prochaine, on aura cinq pilotes de l'Académie Ferrari pour 2020. Le premier, Mick Schumacher, va rester chez Prema pour une deuxième saison en Formule 2. Ensuite, son coéquipier ne sera pas Sean Gillard avec son casque de commandité par Kentucky, le PFK. Ce sera le champion de la Formule 3 internationale, Robert Schwarzman, le Russe, qui sera aux côtés de Mick Schumacher en 2020. Il y a l'autre pilote, le troisième des cinq, le Britannique Callum Ilott, qui passe de Sauber Junior Team by Charouz à Univirtuosi, donc il passe à une équipe de pointe en Formule 2. Il y a le vice-champion de la série Formule 3, Marcus Armstrong, le pilote néo-zélandais qui va passer chez ArtGP, et le fils de Jean Alési, Giuliano, va passer chez HWA, anciennement Arden, avec un demi-pilote préféré de la Formule 2, le Russe Artem Markelov. Yes! Il est de retour, Markelov, après une saison, ben, un peu difficile en Super Formule 1 au Japon. Mais moi, je l'adore. Il est capable de faire des dépassements incroyables. C'est juste dommage qu'il n'ait pas eu sa chance en Formule 1. Mais s'il y a quelqu'un que je n'ai pas envie de revoir, c'est l'homme, le mythe, la légende, Maivert Raghunathan. Que serait un épisode d'En route vers la F1 sans parler de Raghunathan? Parce que il a été très chanceux. Il a échappé à une deuxième suspension. Je vous explique. C'est que le pilote de MP Motorsport a été pénalisé à Abu Dhabi et il a obtenu son 24e point de pénalité. Et il a été chanceux parce qu'il n'a pas été pénalisé. Il n'a pas été pénalisé parce que je vous explique. Lors de la. Il a été sanctionné en raison d'une procédure de test de départ lors des essais libres à Yas Marina. Il n'a pas respecté la marche à suivre. Et en plus de ça, il a fourni une justification complètement erronée. Je vous explique, et je cite le site motorsport.com. Le pilote a poursuivi son essai de départ avec deux voitures devant lui sur la grille. Le pilote a été prévenu qu'il s'agissait d'un comportement extrêmement dangereux et qui ne sera pas toléré par les commissaires. Les standards de pilotage devraient être plus élevés car il s'agit de la dernière épreuve de la saison. Le pilote a déclaré que la voiture devant lui avait commencé à rouler et ce qui n'était pas le cas. Alors, après que le pilote de la voiture 17, Raghunathan, est passé la première voiture devant lui, qui était le dernier moment pour reconnaître qui était le dernier moment pour reconnaître son erreur. Il n'a pas ralenti. Donc, non seulement il a commis quelque chose de très dangereux, mais il a menti sur sa justification. Donc, au total, il a obtenu 24 points de pénalité sur l'ensemble de la saison 2019. Et en plus, il avait été banni lors du Grand Prix d'Autriche pour avoir atteint justement ces 12 points de pénalité. C'est la même règle qu'en Formule 1. Sur une période de 1 an, si vous obtenez 12 points, vous êtes suspendu pour un Grand Prix. Mais le problème, pourquoi il n'a pas été suspendu, c'est parce que Abu Dhabi, c'est la dernière course de la saison. Or, dans le règlement sportif de la Formule 2, l'article 38.3, si un pilote atteint 12 points de pénalité, il sera suspendu pour l'épreuve suivante, après quoi les 12 points seront retirés. Et il faut comprendre qu'il y a deux courses en Formule 2, la feature et la sprint. Donc, les points de pénalité. Et là aussi, ce qui dérange, c'est que dans le même article, les points de pénalité resteront au dossier du pilote jusqu'à la fin de la saison, après quoi ils seront retirés. Donc là, les points qu'il a obtenus, c'est dans la dernière course de la saison. Alors, Raghunathan a été chanceux. Il a pu participer à la course, mais lors de la feature, il a été forcé de partir de la ligne des puits. Donc, pour éviter qu'il fasse des problèmes, mais. Je suis bien content qu'il ne soit pas. J'espère qu'il ne reviendra pas parce que déjà que la Formule 2 a connu une période très difficile, de le voir continuer à faire des actes dangereux comme ce qu'il a fait à Abu Dhabi, là, c'est impardonnable. Et d'ailleurs, le président de la FIA, Jean Todt, va tout faire pour éviter qu'une telle situation se reproduise parce que. C'est pas vrai, c'est pas vrai qu'on va avoir un pilote qui met sa vie premièrement en danger, ainsi que celle de ses compatriotes, ben de ses collègues aussi là, parce que on a déjà perdu un pilote, il y en a un qui a été gravement blessé en Belgique. Ça ne nous tente pas d'avoir d'autres blessés ou un autre mort sur la conscience. Alors, j'espère que la FIA et la F2 vont tout faire pour non seulement éviter qu'un pilote comme Raghunathan fasse de la F2, je veux même plus le voir parce qu'il est très dangereux, mais j'espère qu'on va sévir dans ce cas-là. Bon, c'est assez la tirade sur les pilotes dangereux. Passons maintenant au championnat, au classement des pilotes. Je vous donne le top 10. Alors, Nyck de Vries complète la saison avec 266 points. Nicolas Latifi en compte 214, soit 7 de plus que Luca Giotto et 10 de plus que Sergio Sete Câmara, son coéquipier. Jack Aitken complète le top 5 avec 159 points. Nobuharu Matsushita finit sixième avec 144. Guan Yuzhou, le pilote chinois de Inui Virtuosi avec 140 points. Louis Delétraz en a 92 points. Jordan King compte 79 points. Et pour compléter ce top 10, Antoine Hubert avec deux victoires obtenues en France et à Monaco complète le top 10 avec 77 points. Malgré sa mort, il a réussi à rester dans le top 10 à son année recrue. Et pour compléter, eh bien, on souhaite souligner la victoire de Amna Al-Kubaisi, une jeune femme des Émirats arabes unis, qui a remporté la course de soutien de Formule 4 des Émirats arabes unis lors du Grand Prix d'Abu Dhabi cette fin de semaine. L'année dernière, je sais qu'elle était parmi une de ces nombreuses femmes qui avaient participé à des essais privés en Arabie Saoudite en Formule électrique. Et en plus, elle était avec Prema en Formule 4 italienne, si je ne me trompe pas. Donc, elle a un certain potentiel et elle dit que cette victoire devant ses partisans va peut-être l'aider à retrouver l'Europe, en fait. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une chance, elle aura peut-être une chance de se faire valoir en Europe et d'avoir quelques sponsors aussi. J'espère pour elle que son rêve va se réaliser, mais en tout cas, une victoire à la maison devant l'élite de la Formule 1 qui le regardait, devant des partisans du monde entier, là, ça, c'est une grande vitrine. Et j'espère qu'elle va pouvoir réaliser son rêve d'aller un peu plus loin. Qui sait, peut-être qu'un jour, si elle développe son talent, on pourrait peut-être la voir dans les grosses séries juniors, peut-être voir même l'avoir testée en Formule 1, qui sait? Alors, ceci complète ce dernier balado concernant une course de Formule 1. Je tiens à vous remercier toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ces balados sur les Grands Prix, mais ce n'est pas fini parce qu'il nous reste encore quelques épisodes pour vous. Je sais que j'étais supposé faire cet épisode avec Brian et Marc-André, mais comme ils ont eu des empêchements de dernière minute, j'ai dû le faire tout seul. Mais j'espère qu'on va pouvoir parler en fait du Grand Prix, ben, des Grands Prix, parce que on a un bulletin de notes en deux temps en fait pour vous en termes de balado-diffusion. Et en plus, on va avoir une revue de l'année en deux temps aussi. Donc, un petit cadeau de Noël pour vous, et pour un cadeau de fin d'année aussi, une revue de la saison 2019 de Formule 1 avec Marc-André et Brian. Alors, si vous voulez les écouter, vous pouvez aller sur notre site web bulletinf1.com où cet épisode ainsi que les 29 autres épisodes vont se retrouver sur notre site. Le bulletin de notes du Grand Prix d'Abu Dhabi sera disponible un peu plus tard cette semaine. Et en plus, peut-être pour ceux qui sont des habitués du bulletin F1, ça va être le retour de l'alphabet de la saison selon notre. À ma manière, en fait, comme je l'avais fait en 2018. Donc, la saison 2019 de A à Z, je sens qu'il y a quelques noms qui sont assez faciles à deviner, qui vont se retrouver dans l'alphabet. Mais sinon, tout va être sur bulletinf1.com. Puis je vous prépare aussi un top 20 des meilleures courses de la décennie 2010, qui malheureusement s'est terminé le 1er décembre avec Lewis Hamilton qui a gagné le Grand Prix d'Abu Dhabi. Sinon, on peut continuer la conversation sur les réseaux sociaux. On est disponible sur Twitter, at le bulletin F1, et sur facebook.com, / bulletin F1. Merci encore une fois d'avoir été là pendant la saison 2019 de Formule 1. Je sais qu'on a commencé avec un retour sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais j'espère, je sais que l'année prochaine, on va être en mesure de faire la saison complète avec la balado de diffusion. Mais entre-temps, on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie du bulletin de notes de la saison 2019 selon le bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis, attention, c'est bientôt Noël. Allez, bonne semaine à tous.